Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. On appelle ça être au milieu du gué. Et quand on est au milieu du gué, on a parfois tendance à se demander si on n'aurait pas mieux fait de rester sur la rive. Surtout quand on ne sait pas exactement comment on va arriver sur l'autre. Il y a tout juste un an, la Grande-Bretagne déclenchait l'article 50 du traité européen pour annoncer sa sortie de l'Union européenne suite au référendum favorable au Brexit. Et dans un an, le Brexit sera donc devenu réalité. Mais d'ici là, il y a encore le temps pour la négociation qui est loin d'être achevée sur certains sujets. Et peut-être même pour l'hésitation, certains rêvent d'un Brexit à minima, voire carrément d'un retour en arrière. Un retour en arrière sur le Brexit est-il possible? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Philippe Moreau de Farge, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions internationales, de la géopolitique, de la construction européenne, et vous êtes l'auteur de La tentation du repli, mondialisation, démondialisation, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et spécialiste de la Grande-Bretagne, et vous publiez un article dans L'économie européenne, Brexit, comment le Royaume-Uni et l'Union européenne vont-ils rebondir? Un an après le déclenchement de l'article 50, la Grande-Bretagne est-elle toujours aussi décidée ou peut-être partagée sur la question du Brexit, Catherine Mathieu?
Je dirais les deux, en fait. Hein. La Grande-Bretagne est toujours décidée à quitter l'Union européenne, mais elle est toujours partagée. Avec le temps qui passe, on a toujours à l'intérieur du Royaume-Uni les partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la plus rapide possible, la plus dure possible. Prêt, du moins, à accepter la sortie la plus dure possible. Et puis, ceux qui se disent que mais il vaudrait mieux que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et parmi eux, par exemple, il y a Tony Blair qui appelle régulièrement à un nouveau référendum. Mais on voit bien que ça ne prend pas dans la population, en fait, la population britannique, même si elle a conscience que ce vote en faveur du Brexit va conduit déjà à une situation difficile pour les Britanniques, je pense, reste quand même dans l'idée que le Royaume-Uni va sortir.
Alors, Philippe Moreau de Farge, les Britanniques assument, c'est comme ça qu'on peut...
Attendez, les Britanniques assument, mais il faut élargir le tableau. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est dans une crise extrêmement grave. C'est étonnant, c'est un pays remarquable, mais il est dans une crise... D'une part, il y a la sortie de l'Union européenne. D'autre part, il y a quand même la question de l'indépendance de l'Écosse, qui n'est pas totalement fermée, même s'il y a un référendum, a semble-t-il, mis le dossier de côté. Et surtout, troisième point, le futur gouvernement britannique. Et il faut reconnaître que Madame May gouverne dans des conditions extrêmement difficiles. Que veut-elle? Ce n'est pas clair. Elle a raté sa dissolution. Et il y a un homme qui guette dans les coulisses, qui est Jeremy Corbyn. Et aujourd'hui, il n'est pas exclu que Jeremy Corbyn devienne Premier ministre du Royaume-Uni. Ce qui était dans ce pays qui est extrêmement raisonnable peut par moment avoir des crises un peu excessives. Et rappelons-nous les années 70 où il y a eu une expérience travailliste dure. Pourquoi pas à nouveau une expérience travailliste dure? Mais ça ne veut pas dire que la ligne de sortie de l'Union européenne sera modifiée.
Alors, Catherine Mathieu, vous avez commencé à le dire, les conséquences de ce vote sont plutôt négatives, notamment sur l'économie britannique à présent.
Oui, elles sont plutôt négatives, mais jusqu'à présent très limitées. Hein. C'est-à-dire qu'on a encore une croissance qui reste soutenue, relativement soutenue au Royaume-Uni, avec une croissance qui a été de 1,8% en 2017.
Et qui est quand même la plus faible des plus grandes économies.
Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que l'économie britannique ralentit alors que les autres économies... à commencer par la France, accélère. Donc on a un effet de ciseau qui se passe entre l'économie britannique et l'économie française, et puis un certain nombre d'économies en ce moment. L'économie britannique a commencé à ralentir. Le premier effet du vote, hein, du référendum, en termes économiques, ça a été la baisse du taux de change de la livre. Cette baisse du taux de change a conduit à une accélération de l'inflation qui est passée de 0,6% à 3% en quelques mois. Cet effet maintenant est largement derrière nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une remontée de la livre sterling depuis plusieurs mois et on voit que l'inflation commence à ralentir au Royaume-Uni. Donc si il n'y a pas de nouvelles inquiétudes sur les marchés d'échange, l'effet de l'appréciation de la livre et de l'accélération de l'inflation est passé. Mais l'effet qui est très présent, qui reste très présent aujourd'hui, c'est la question de l'incertitude, en particulier sur les investissements. Parce que les entreprises ne savent pas aujourd'hui, aujourd'hui encore.
Ils ne connaissent pas le cadre dans lequel elles vont travailler demain.
Exactement. Et donc, en fait, on voit clairement qu'il y a un attentisme du côté de l'investissement des entreprises au Royaume-Uni.
Il y a une deuxième incertitude, pour compléter ce que vous dites, c'est l'incertitude sur la stratégie à suivre. C'est-à-dire que le Royaume-Uni s'était ancré dans l'Union européenne depuis les années 70. Il y avait un choix européen qui s'est traduit dans la réorientation des échanges de l'économie britannique. Aujourd'hui, est-ce que le Royaume-Uni a une stratégie alternative? Alors, les partisans du Brexit disent que grâce au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y aura une espèce d'ouverture sur le monde. Et des ministres britanniques sont allés en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis pour espérer nouer des accords de libre-échange qui seraient une autre option. Et pour le moment, pas grand-chose, pas de résultats concrets.
Est-ce qu'il y a une espèce de nostalgie du Commonwealth, une nostalgie impériale, Philippe Moreau de Farge?
Mais bien sûr. J'aime beaucoup le Royaume-Uni, j'ai beaucoup d'admiration pour le Royaume-Uni. Mais ce pays, quelque part, un peu comme la France, ne s'est pas remis d'avoir perdu son empire. Et il y a inconsciemment une nostalgie de l'empire. Il y a cet espoir que, c'est vrai que par exemple, l'Inde parle anglais, enfin la langue officielle de l'Inde c'est quand même l'anglais, c'est clair que les Indiens ne sont plus du tourné vers l'économie britannique. Donc ce qu'oublie le Royaume-Uni, c'est qu'il peut quitter l'Union européenne, il reste un pays ancré en Europe, au large de la Manche, et il ne peut pas quitter l'Europe, aller dans le Pacifique. Il est soudé à l'Europe, qu'il le veuille ou non.
Catherine Mathieu.
Je ne crois pas que le Royaume-Uni oublie, en fait. Hein. Et il faut bien voir, enfin, de mon point de vue, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, les Britanniques sont entrés dans l'Union européenne, mais sont entrés dans l'Union européenne avec une idée précise d'entrer dans un grand marché et pas du tout d'entrer dans une union politique. Et au cours du temps, à l'intérieur en Europe continentale et à l'intérieur de la zone euro en particulier, on est allé vers l'idée d'aller vers davantage d'intégration politique, et ça, le Royaume-Uni n'en a jamais voulu. Et donc, en fait, ce vote aujourd'hui, enfin, ce vote de 2016 en disant nous souhaitons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas de quitter l'Europe, mais c'est de dire que le Royaume-Uni souhaite davantage rester dans une grande zone de libre-échange, et pas davantage. Alors, on peut être d'accord ou pas avec cette vision de l'Europe qu'a le Royaume-Uni, mais c'est ce que souhaitent les Britanniques. Mais quand Theresa May a dit nous souhaitons rester... continuer à faire partie du marché unique et des pays de l'Union européenne, on dit aux Britanniques vous ne pouvez pas choisir de quitter l'Union européenne tout en gardant l'accès au marché unique.
Mais là on tombe sur le grand malentendu qu'avait senti Margaret Thatcher, c'est comment voulez-vous avoir un marché unique sans avoir des règles européennes? Comment voulez-vous avoir un marché unique sans bâtir un espace juridique, réglementaire, administratif et même judiciaire européen? Ça ne me paraît pas possible, mais je crois que quand on est français, on a beaucoup de mal à détacher complètement l'économie. Si vous voulez, la zone de libre-échange peut exister, mais nous, quelque part, l'Union européenne, même si on laisse de côté la dimension proprement politique, c'est la création d'un espace juridique commun. Le marché unique qui a tellement déçu Madame Thatcher, c'était 300 directives, dont une abondance de textes juridiques européens.
Alors, Catherine Mathieu, dans un pays où on manifeste peu, ou alors on manifeste fort, disons, dans les grandes occasions, il y a eu quelques manifestations, notamment une à Manchester, qui a rassemblé 30 000 personnes. Est-ce que les Remainers, ceux qui sont pour rester dans l'Union européenne, est-ce qu'ils ont vraiment baissé pavillon?
Non, je ne crois pas. En fait, à suivre l'actualité britannique au jour le jour, depuis 2016, on voit que effectivement ceux qui sont en faveur de rester dans l'Union européenne n'ont pas baissé pavillon, mais ils n'arrivent pas à faire progresser. Cette idée qui est de dire eh bien il faut revoter, il faut renoncer à sortir, et quel que soit l'angle avec lequel les Remainers approchent cette question, ça ne passe pas, et les Britanniques restent je pense très attachés à cette démocratie, au fait qu'il y ait eu un vote, et même si effectivement 52% ont voté pour sortir et 48 pour rester. Eh bien, en fait, parmi ceux qui ont décidé de voter pour rester, ils se disent voilà, il y a eu un vote et on doit respecter ce vote. Et pour moi, c'est vraiment la tradition démocratique qui joue d'abord.
Finalement, est-ce que les appels à un deuxième référendum, Philippe Moreau de Farge, ne viennent pas surtout de l'Union européenne quelque part?
Non, elles viennent, semble-t-il, des Remainers. L'Union européenne est très prudente parce qu'on ne veut pas se mêler des affaires intérieures du Royaume-Uni.
Donald Tusk a quand même été un peu. Il a été un peu loin.
Oui, bon. Mais si vous voulez,
l'Union européenne dit régulièrement aux Britanniques que ce serait bien qu'ils changent d'avis, qu'ils reviennent.
Parce que ce qui est vrai, ce que j'aurais complété ce qu'a dit Catherine Mathieu à propos de la démocratie. Je crois que le Royaume-Uni consent les contradictions de l'Union européenne. D'un côté, le Royaume-Uni se plaint que l'Union européenne n'est pas assez démocratique. Et c'est vrai que c'est une critique générale contre l'Union européenne. Simplement, La question, c'est que si on veut faire une Europe démocratique, il faut faire une forme d'Europe fédérale. Il faut accepter un Parlement européen avec plus de pouvoir. Il faut qu'à côté de la monnaie unique, il y ait un véritable pouvoir budgétaire européen. Et là, on voit bien que cette question, du lien entre, intégration économique et démocratie politique n'a jamais été vraiment débattue, notamment au Royaume-Uni, mais pas non plus dans les autres États de l'Union européenne. Donc c'est vrai que le Royaume-Uni met en scène de façon un peu extrême la problématique générale de l'Union européenne, de l'articulation entre... libre-échange, comme vous le dites, et construction d'un espace juridique commun.
Oui, libre-échange. Pour moi, dans la tradition libérale britannique depuis des siècles, maintenant, d'avoir des échanges commerciaux qui se font de façon libérale à travers le monde. Et puis, quand même aussi, cet aspect souveraineté qui est très important pour les Britanniques, et le fait d'aller vers une Europe fédérale, je crois qu'une majorité des Britanniques n'en voudraient pas. En fait, il y a toujours, du côté britannique, le souhait de garder un État souverain.
Alors, il y a une chose qui ne se dément pas depuis ce vote de juin 2016, c'est l'unité et le front commun européen dans ces négociations. Jamais il n'y a eu de pays qui est parti un petit peu sur le côté en essayant de négocier de son côté avec le Royaume-Uni. Est-ce que le fait de se trouver face à une entité qui est cohérente, Philippe Moreau de Farge, est-ce que ça peut faire douter les Britanniques ?
Il faut être prudent. D'abord, la cohésion de l'Union européenne,
sur cette question.
Sur cette question, bon, elle est là. Il faut peut-être pas trop en abuser. Premièrement. De l'autre côté, est-ce que ça va pousser les Britanniques à bouger? Ce n'est pas certain du tout. Vous savez, les Britanniques sont extrêmement têtus et au contraire, l'hostilité du continent européen. Ce sont de grands Bretons. Donc non, ne surestimons pas ce facteur. Je crois que il ne faut pas surestimer ce facteur de l'Union. Et c'est vrai que, notamment, ce qui est très difficile, c'est que je pense que Michel Barnier, notamment, doit veiller à montrer aux Britanniques qu'ils doivent quelque part, entre guillemets, être punis de leur départ. Mais de l'autre côté, il faut pas pousser le bouchon trop loin parce que, malgré tout, le Royaume-Uni, j'ai envie de dire, fait partie de l'Europe géographiquement et même civilisationnellement. Donc, le Royaume-Uni, il faut pas non plus le rejeter totalement.
Alors, que sur la force de la négociation du côté européen, ça a été d'imposer un séquençage aux négociations et de dire on ne parle pas de tous les sujets et en particulier, on ne parle pas du sujet qui est le plus important pour les Britanniques à long terme, c'est ce futur partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et l'Union européenne à 27, en disant on ne parle pas de cette question, on parle d'abord de 3 points qui finalement ne sont pas les points, selon moi, les plus importants à long terme. La question des droits des citoyens, la question de la fameuse facture que le Royaume-Uni devra régler en partant et la question de l'Irlande du Nord. En imposant
qui n'est pas réglée, celle-ci.
Qui n'est pas réglée. Et en fait, effectivement, celle-ci, elle est très, très importante. Mais alors, c'est vraiment la question sur laquelle, à la fois, tous les Européens, y compris les Britanniques, souhaitent trouver une solution. Mais ça sera peut-être la plus difficile à régler.
Alors, la question de l'Irlande, justement, puisque c'est une de celles qui ne sont pas réglées, les Britanniques veulent rétablir donc une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, mais sans poste frontière. Une frontière qui n'en serait pas une, qui serait surveillée presque virtuellement, Philippe Moreau de Farge. Est-ce que ça vous paraît possible, ça?
On peut en débattre à l'infini. Boris Johnson vous dirait que c'est tout à fait possible que les moyens électroniques le permettent. Je crois que du côté de Michel Barnier, du côté de la Commission européenne, on dirait que ça n'est pas possible. S'il y a une frontière, il faut montrer qu'il y a une frontière. Et c'est vrai que là, il y a un problème, vous avez raison, qui est extrêmement dur et qui va être très difficile à régler. C'est que malgré tout, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne implique une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Mais c'est faire voler en éclats tout le règlement de paix qui est intervenu à propos de l'Irlande du Nord. Donc il y a une contradiction. Mais vous avez raison, ça va être une grande pierre d'achoppement. Et comme vous savez, comme disent les Britanniques, le diable est souvent dans les détails.
Les Britanniques ne souhaitaient pas qu'il y ait un rétablissement de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Mais comme l'Union européenne a dit aux Britanniques, si vous choisissez de quitter l'Union européenne, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire partie du marché unique. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait des frontières qui soient rétablies. Donc, en imposant cela aux Britanniques, les Britanniques n'ont pas le choix que de rétablir une frontière.
Il y a eu le facteur terrible pour Mme May qui n'a plus de majorité et qui a fait une majorité avec les unionistes de l'Ulster.
Ils sont farouchement opposés au Brexit.
Farouchement favorables. Ils veulent une frontière. Il faut vraiment qu'il y ait une séparation stricte entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
C'est vrai que ça rouvre toute la question, effectivement, du Royaume-Uni et de l'Irlande en général. Et il faut trouver, effectivement, une solution, comme disent les Britanniques. Britanniques et les pays de l'Union européenne qui soient très inventives, mais on a du mal à l'imaginer aujourd'hui.
Autre élément qui pourrait éventuellement, ou qui fait réfléchir dans l'actualité qui est arrivée récemment, c'est l'affaire Cambridge Analytica. L'entreprise qui a donc utilisé les données personnelles d'une cinquantaine de millions d'utilisateurs de Facebook a fait basculer le vote du premier référendum selon le lanceur d'alerte qui a soulevé le lièvre. Est-ce que ça c'est quelque chose qui fait réfléchir les Britanniques.
Moi, je suis pas sûr. Ce qui est, alors, premièrement,
est-ce que le vote a été manipulé? Est-ce que du coup, on peut
revenir? C'est très difficile de répondre à cette question. On peut affirmer. Moi, je dis, c'est impossible de répondre. Si vrai, c'est qu'il y a eu probablement des manipulations. Est-ce que non? Si vous voulez, la question de Cambridge Analytica, c'est une question beaucoup plus large. C'est le poids de ces réseaux sociaux dans la manipulation des votes. Et c'est vrai que là, il y a un problème démocratique. Parce que je vous rappelle que ça s'est posé aux États-Unis avec Trump, ça se pose au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est une question beaucoup plus large. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez, je pense que l'idée que ça va remettre en cause le vote sur le Brexit, moi personnellement, je n'y crois pas. Je pense pas que ça changera le vote sur le Brexit. Et comme vous l'avez dit très justement, aujourd'hui, la majorité des Britanniques ne veulent pas de nouveau référendum. C'est ça qui est important.
Oui, c'est ça qui est important, je pense. C'est ce qu'on lit au fil des sondages. Les Britanniques ne souhaitent pas un nouveau référendum. Bon, alors si un nouveau référendum était décidé malgré tout, difficile de dire quel serait le résultat. Hein, parce que aujourd'hui aussi, quand on regarde les opinions des Britanniques, ils sont toujours très divisés et il y a toujours de nombreux incertains, comme c'était le cas en 2016, à peu près 20%, ce qui est un chiffre énorme.
Sans compter qu'il y aurait une campagne, comme il y a eu une campagne très dure d'ailleurs lors du premier référendum. Est-ce que finalement la faiblesse britannique dans cette affaire ne réside pas dans les divisions politiques au sein des conservateurs et la relative faiblesse de Theresa May?
Il y a une division des conservateurs et il y a cette incertitude qui est: quel sera le prochain gouvernement britannique? C'est vrai que aujourd'hui,
qu'elle ne dispose qu'une majorité relative, quoi, tout simplement.
Oui, oui. Voilà.
Et puis il y a une division parmi tous les partis, en fait. Chez les travaillistes aussi, il y a une division.
Et c'est
pour ça que même si on imaginait qu'il y ait une nouvelle élection et que Jeremy Corbyn devenait premier ministre, à l'intérieur du parti travailliste, il y a aussi de nombreuses oppositions. Donc rien ne dit que la situation serait plus facile à gérer pour les Britanniques.
Jeremy Corbyn n'est pas un pro-européen. On peut pas le présenter comme un pro-européen.
Non, on peut pas dire ça, effectivement. Est-ce que finalement la volonté de rester dans l'union douanière et donc dans le marché unique ne va pas pousser les Britanniques à accepter, quand ils vont se retrouver face à la négociation, face à la réalité, un Brexit à minima? C'est-à-dire formellement on sort, mais que finalement, on reste un petit peu dans les règles européennes, Catherine Mathieu.
Alors sur certains points, je pense, sur toutes les questions de réglementation, oui. De façon possible, je dirais, mais sur d'autres points, quand même, comme la Cour de justice européenne, je pense que les Britanniques resteront très fermes là-dessus, et je ne les vois pas accepter de renoncer à cette demande.
Oui, oui, non, je suis d'accord. Et ce qui est très étrange, ce qui est un peu surprenant, c'est que les Britanniques, qui sont perçus comme un peuple pragmatique et très axé sur les réalités économiques, là mettent en avant des considérations de principe. C'est la souveraineté britannique, la souveraineté du Parlement britannique qui est la priorité. C'est très étonnant, c'est vraiment une position de principe, un peu comme Churchill l'avait pris au moment de la guerre.
Catherine Mathieu, est-ce que la faiblesse de Theresa May, les questions de politique intérieure peuvent encore beaucoup influer sur la nature du Brexit, parce qu'elle n'est pas déterminée finalement encore?
Non, il n'est pas déterminé, mais en fait, je pense que pour beaucoup de personnalités politiques au Royaume-Uni, c'est très bien que ce soit Theresa May qui gère cette question du Brexit.
C'est ça que vous voulez dire.
Exactement. Et donc, en fait, tout le monde attend derrière, mais en espérant qu'elle aura résolu la question avant de prendre sa place.
Merci beaucoup, Catherine Mathieu. Merci à vous également, Philippe Moreau-Defarge. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Ça va très vite, c'est déjà terminé. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Tiffany Menta. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobile avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.